Le Jardin des mots, une émission mensuelle, donc où nous parlons de livres, d'écriture, d'art, mais surtout, nous tentons de faire des rencontres, c'est-à-dire de découvrir derrière les personnages officiels qui tiennent une librairie, qui sont des artistes connus ou méconnus, de découvrir les gens, des êtres qui se cachent derrière tout ça. Quatrième jeudi de chaque mois, Le Jardin des mots.
Une émission proposée, préparée et animée par Christiane Belleuil, chaque quatrième jeudi du mois, de 17h à 18h, sur Fréquence Mistral 99.3.
Et c'est tout de suite au Jardin des mots. Et alors, c'est une émission un peu particulière aujourd'hui, puisque cette émission, habituellement préparée et animée par Christiane Belleuil, directrice de la médiathèque des Alpes de Haute-Provence, eh bien, aujourd'hui, elle a un contretemps et je prends donc la relève au pied levé. Et je suis ravie d'accueillir Dominique Zamparini. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à Fréquence Mistral dans notre studio de Digne. Et bien sûr, on va parler du Jardin des mots, on va tourner autour des mots. Vous êtes comédien, metteur en scène, directeur de la compagnie Rire et Sourire.
Oui.
Une compagnie qui est née il y a quelques années.
Oui, qui a déjà une quinzaine d'années d'ancienneté. Nous sommes installés sur Sainte-Tulle. Voilà, donc, et puis nous tournons sur le département essentiellement et de temps en temps aussi un petit peu à l'extérieur.
Alors on va faire un peu plus ample connaissance avec le comédien Dominique Zamparini. D'abord, vous avez commencé dans un domaine qui n'a pas vraiment rien à voir avec la comédie, si on peut dire. Vous étiez instituteur.
Oui, tout à fait, j'étais instituteur. Et puis j'ai continué ensuite en tant que conseiller d'orientation. Mais toujours en parallèle, j'ai maintenu cette activité artistique.
Voilà. Le théâtre depuis toujours.
Depuis toujours, effectivement. Bon, avec des hauts et des bas, naturellement. Et maintenant, je suis à la retraite et je m'investis de plus en plus dans cette partie-là, quoi. En tant qu'acteur, en tant que metteur en scène et aussi en tant que responsable de troupe. Et je tiens aussi à le dire, je me fais un devoir d'employer des gens qui sont en difficulté par le biais de contrats CAE, de contrats aidés. L'année dernière, nous étions à 4 contrats aidés, ce qui, je pense, est tout à fait honorable dans ce département.
Alors, ce goût du théâtre, de la comédie, donc, est assez ancien. Mm-hmm. Vous étiez déjà petit, vous étiez
oui, tout à fait.
Attiré par ben, ce...
C'est ma maman qui m'a poussé sur une scène quand j'étais tout petit. Et bien, je crois que j'ai toujours ensuite aimé ça. Le vide d'un côté quand on est sur scène et puis toutes ces sensations que l'on éprouve et qui sont absolument merveilleuses, quoi. Voilà.
Quels ont été les auteurs qui vous ont...
Oui, j'ai joué un petit peu de tout. Hein. J'ai quand même une formation classique au départ. Hein. J'ai suivi pas mal de cours avec des formateurs qui travaillaient sur le classique, en particulier Molière, bien sûr. Et ce n'est qu'assez récemment que je me suis mis au théâtre un petit peu plus contemporain. Mais c'est vrai que ma culture théâtrale, je le reconnais, est quand même essentiellement classique. Quand je parle de culture théâtrale, quand je parle de café-théâtre, là, bien sûr, c'est quand même beaucoup plus actuel. Voilà.
L'écriture, c'est quelque chose qui vous est venu assez tôt aussi ?
Non, beaucoup plus tard. Au départ, j'étais très respectueux des textes d'auteurs. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à vouloir les mettre en scène et les adapter, je me suis dit qu'il y avait peut-être une certaine liberté à prendre avec des auteurs qui n'étaient pas vraiment de grands auteurs, mais dont le message était fort. En particulier, par exemple, je pense à Courteline. Courteline, il y a des choses qui sont très intéressantes, mais le texte a considérablement vieilli. Et je n'ai aucune honte à l'adapter au langage contemporain. Ça ne veut pas dire que je transforme tout. Ça veut dire que je supprime les tournures qui sont beaucoup trop anciennes. Et puis, je fais des petits clins d'œil à l'actualité. Ça, c'est vrai. Bon, ça, c'est le côté café-théâtre qui ressort. Voilà. Sinon, le fait d'écrire... Donc, au départ, c'était donc de l'adaptation. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, mais après tout, pourquoi ne serais-je pas capable d'écrire moi-même mes propres textes? Et là, de plus en plus, c'est ce que je fais.
Avant de revenir à l'écriture de vos textes, quand on adapte un roman pour l'écriture théâtrale, pour être joué, en fait.
Oui.
C'est une écriture bien particulière. Est-ce que vous avez appris ça?
Non, ça, à mon avis, ça ne s'apprend pas. Pourtant, en tant que conseiller d'orientation, je devrais être capable de vous dire s'il y a des écoles. Non, je ne pense pas. Non, ça se fait naturellement. Là, par exemple, on va parler du spectacle « Mémoire d'un rat de guerre ». C'est adapté d'un roman, un roman de Pierre Chêne. Quand je l'adapte au niveau théâtral, je garde une partie de ce qui est important, de ce qui est théâtral, et ensuite tout le reste, je l'élimine, et puis à ce moment-là, je me contente d'adapter. Quand c'est le rat qui parle, qui raconte sa guerre, par exemple, je n'ai pas besoin de suivre le roman in extenso. Voilà.
Et puis vous chantez aussi?
Ça m'arrive, mais je suis pas je suis pas un grand chanteur, mais bon, c'est vrai que j'aime beaucoup Brassens. Là, je travaille sur Francis Blanche. Peut-être que tout à l'heure, j'en chanterai une petite de Francis Blanche. Mais je ne m'estime pas être un grand chanteur, non, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas peur de chanter. Quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal la manche en restaurant et je sentais que ça marchait. Donc je me suis dit pourquoi ne pas continuer. Mais je n'ai pas une vocation de chanteur.
Et dans l'écriture, ce qui vous intéresse, donc, c'est plutôt le côté ironique, humoristique.
Oui, parce que finalement, je pense que c'est le plus difficile. On peut très bien croire qu'un sketch est bon parce que ça nous fait rire quand on l'écrit. Et puis finalement, quand on le relit ou quand on le joue devant le public, parfois on fait des flops terribles. On s'est dit, bon, ben, je me suis planté. Donc, et c'est vrai que l'écriture, c'est Molière le disait déjà, l'humour, c'est la chose la plus difficile qui soit. Il ne le dit pas dans ces termes, mais c'est un peu ça. Autant je pense qu'écrire écrire un texte dramatique, et c'est exactement pareil quand on joue. Moi, je pense que jouer dramatique, c'est à la portée de n'importe qui, franchement. Par contre, jouer du comique, eh bien, ça n'est pas du tout à la portée de tout le monde. Et écrire, je crois que c'est encore plus difficile. Et moi, quand j'écris, je sens que j'ai besoin de reprendre. Mais maintenant, j'ai une certaine petite expérience, donc je sais quand je me plante et quand je ne me plante pas. Mais c'est toujours à mes risques et périls. Et puis parfois, un jour, ça marche devant un public et le lendemain, ça ne marche plus.
Donc ça vous intéresse de faire rire et en même temps vous êtes très sensible à la poésie.
Oui, tout à fait.
Et en même temps des choses plus graves, puisque dans le rat des tranchées de la Grande Guerre, j'imagine qu'il n'y a rien de comique là-dedans.
Et bien si, justement, si curieusement, le texte de Pierre Chêne, donc Pierre Chêne écrit ça en 1917 et le texte n'a pas été censuré. Parce que c'était un rat qui parlait, donc les militaires se sont dit « bon, ça va, c'est pas grave ». Alors que le texte est plein d'humour et il critique énormément, bien sûr, ce qui se passe en temps de guerre. Et le fait que ce soit un rat qui parle prend une tournure absolument comique. Donc, bien sûr, c'est pas à mourir de rire, mais le texte marche bien aussi parce que j'alterne des moments poignants avec des moments tout à fait humoristiques. Puisque c'est un rat, donc c'est vrai que ce serait un poilu qui raconterait ça, on se dirait quand même les chéris un peu. Mais bon, puisque c'est un rat, en plus un rat qui voit ça de l'extérieur, donc on peut se permettre beaucoup de choses.
Vous êtes comédien, vous mettez en scène et vous mettez en scène vous-même.
Oui.
Et c'est pas trop difficile? Est-ce que vous avez besoin d'un regard extérieur?
Je suis très immodeste quand je me mets en scène. Non, je me mets en scène tout seul. Par contre, je fais beaucoup de stages, je travaille beaucoup avec des professionnels, j'en fais régulièrement. Et quand je fais des stages, bon, j'apprends beaucoup de choses. Je me permets un regard critique sur moi. Par contre, quand je crée quelque chose, non, là, j'y vais tout seul. Et j'ai la chance, apparemment, que ça marche assez bien. Donc, je continue.
Et vous continuez à jouer Mémoire d'un rat de guerre?
Donc je l'ai joué à Seine-les-Alpes, à la Maison du Mulet en été, et je vais le reprendre donc au mois de novembre, en particulier à Saint-Martin-de-Brome. Et puis normalement, je devrais aussi le faire dans le pays de Fort-Calquier.
Et alors, Courteline et Belle Époque,
oui.
C'est aussi une pièce que vous jouez.
Alors ça, c'est un montage. C'est un montage de 4 pièces de Courteline. Donc, il y a M. Badin qui est une critique des fonctionnaires, plus d'autres pièces. Et une dernière pièce qui est assez peu connue, qui s'appelle Menton Bleu, où là, on voit un comédien raté qui se moque d'un autre comédien encore plus raté que lui. Et ça, c'est très intéressant. Bon, Courteline connaissait très bien le monde du théâtre. Et là, il est sans pitié par rapport aux gens de théâtre.
Alors, par exemple, là, j'ai sous les yeux des spectacles. Est-ce que ça fait partie d'un même spectacle? Les apartés, l'incendie?
Non, tout ça, c'était un montage. C'était un montage que j'avais écrit il y a quelques années. Donc, il faisait partie d'un spectacle qui s'appelait Le théâtre pour les nuls. Voilà.
D'accord. Eh bien, avant de parler, on va bien sûr parler de votre compagnie de théâtre, de vos projets, de votre petit théâtre à vous, à Sainte-Tulle.
Oui.
Et puis, des rencontres de la parole, on en dira un mot aussi. Et avant, on va écouter peut-être Grand Corps Malade.
Oui, tout à fait.
C'est tout de suite. Et on se retrouve, Dominique Zamparini, juste après.
J'ai mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire crier, j'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions, c'est pareil, dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte, j'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par coup, je sais même plus où je les ai mis, j'ai mis des mots, j'ai mis des mots, mais jamais trop, dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai eu les crocs, des mots nouveaux, des mots rétro, j'ai mis des mots pour compenser, j'ai pas le destin compensé, mais en passant sur le passé, on peut tracer sans effacer, j'ai mis des mots, j'ai pas médit, j'ai mis des dos, j'ai mis des mi, des mots entiers, pas des demi, j'ai mis des mots de Saint-Denis, j'ai mis des mots que j'ai couvés, j'ai tenté de les faire grouver, sans entraver, rien à prouver, sans en baver, tout à trouver, les mots vont vite, faut qu'on s'accroche. J'ai pris le tempo à l'accroche, c'est pas pour me remplir les poches, car tous ces mots c'est pour mes proches. Et quand la musique accompagne, les mots pétillent comme du champagne, et le meilleur ne le nie pas, c'est sur un air d'harmonica. En 2003, j'ai oublié les médisants. J'ai mis des mots, c'est médisant. J'ai mis des mots, j'ai des raisons. Coupable de combinaison et je crée sans comparaison des horizons à chaque saison. Dans plein de pays, j'ai mis des mots. Berlin, Québec ou Bamako. J'ai même trouvé des mots en route. J'ai mis des mots jusqu'à Beyrouth. J'ai mis des mots dans tous les sens, à l'envers, à l'effervescence. Des mots sympas ou en colère, des mots bien droits ou en galère. J'ai mis des mots, c'est dérisoire, parfois tranchant, c'est des rasoirs, mais bien placé, c'est opportun. J'ai mis des mots, c'est important. J'ai trouvé de l'inspiration pour inspirer mes directions, pour continuer sans crispation. Je reprends ma respiration. Ça fait des rencontres, je me rends compte, je suis pas contre. J'ai mis des mots à l'infini, j'ai pas failli, c'est pas fini. J'ai mis des mots, j'aime des gens, j'ai mis des vœux, jamais urgent. J'ai mis de moi, j'ai mis de vous, des émois de nos rendez-vous. Et quand la musique accompagne, les mots pétillent comme du champagne. Et le meilleur ne le nie pas, c'est sur un air d'harmonica.
Vous êtes à l'écoute de Fréquence Mistral et nous sommes en compagnie de Dominique Zamparini, comédien, metteur en scène, directeur de la compagnie Rire et Sourire, compagnie de théâtre à Sainte-Tulle, écrivain également. Donc on va reprendre où nous en étions dans ce jardin des mots un peu particulier puisque normalement c'est Christiane Belleuil qui l'anime. et on la salue d'ailleurs, voilà, l'empêchement. Cette compagnie, voilà, vous dites, vous êtes une des rares compagnies à avoir des contrats avec l'Europe quand même.
Oui, tout à fait. Alors c'est bon, nous sommes reconnus, hein, si on prend les choses dans l'ordre, par la DLVA, c'est-à-dire Communauté de communes de Manosque. Nous sommes aussi reconnus par le Conseil général, donc Conseil départemental maintenant, bien sûr. Et je tiens à dire que le Conseil départemental nous suit vraiment. On a vraiment d'excellents rapports ensemble. Le Conseil départemental, malgré le peu de financement, je trouve, s'investit beaucoup dans la culture, dans ce département. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Nous sommes également suivis par le Conseil régional sur certains projets. Et pendant plusieurs années, nous avons été suivis par l'Europe. Là, nous sommes en train de monter un autre projet européen. Je ne sais pas encore si ça passera, mais en particulier, on a eu un projet leader où on nous avait demandé de créer tout un spectacle sur l'éco-construction. Donc, on était loin du théâtre au départ, mais finalement, le fait de savoir écrire et puis le fait de se documenter, ça m'a permis de monter un spectacle avec quelques courtes pièces qui évoquaient donc diverses problématiques de l'éco-construction. Voilà. Et je crois que le fait de s'engager sur des projets européens, c'est extrêmement risqué parce que il faut avoir les reins solides. Il faut savoir que l'Europe ne paye jamais tout de suite. Donc, il faut être capable d'être suivi par la banque d'une part et puis ne pas avoir peur aussi d'investir soi-même parce que sinon, bien sûr, on ne peut pas monter un projet. C'est le drame de beaucoup d'associations qui s'engagent sur des projets européens et qui connaissent très souvent de grandes difficultés parce que bon, l'argent n'arrive pas nécessairement. Il y a beaucoup de contrôle, ça c'est normal, c'est l'argent du contribuable, mais on n'est pas du tout dans la même logique que lorsqu'on a une subvention, par exemple, du conseil départemental ou du conseil régional. Mais pour nous, ça a vraiment été une grande expérience et c'est une expérience que je tiens à renouveler, quoi, parce que ça nous situe quand même à un autre niveau. Voilà.
Dominique Zamparini, vous êtes donc comédien, on l'a vu, metteur en scène, écrivain, et puis vous animez également des ateliers.
Ateliers de théâtre, bon, on peut en dire deux mots, puisque là j'ai rouvert un atelier de théâtre cette année à Sainte-Tulle, justement. C'est un atelier qui a la particularité d'être gratuit. Ce qui est quand même intéressant.
Oui,
c'est plutôt rare. Alors moi j'estime, bon on va pas lancer la polémique, mais j'estime que beaucoup de gens dans ce département ouvrent des ateliers théâtre alors qu'on ne les voit jamais sur scène. Donc je me demande comment ces gens-là peuvent enseigner le théâtre. Moi je fais le contraire, je suis un homme de théâtre et je propose des ateliers gratos, mais bien sûr en échange je demande à ce que les gens jouent avec moi, tout simplement. Donc c'est un échange de services. Moi je raisonne comme ça et de sorte que tous les gens dans ma troupe sont tous plus ou moins passés par l'atelier théâtre, mais sans avoir jamais payé un centime. Et j'ai d'ailleurs, grâce à cela, d'excellents acteurs et d'excellentes actrices. Voilà.
Ils sont quand même inscrits à l'association.
Ah oui, bien sûr. Ouais. De toute façon, il faut qu'ils soient membres de l'association. Mm-hmm. Bon, c'est 15 euros dans l'année. Ça, c'est pour l'assurance et pour les couvertures. Mais je ne fais pas payer les cours. Je pense qu'il y a des gens, par contre, compétents pour donner des cours, en particulier les conservatoires. Il faut en dire ça, d'accord. Mais à côté, je ne vois pas pourquoi des gens que je n'ai jamais vus, mais je dis bien jamais vus sur scène, peuvent s'instituer comme ça. Bon, prof de théâtre. Enfin, s'il y a des stagiaires assez gogo pour les suivre, ça c'est leur problème.
Alors, vous vouliez qu'on lise... Alors, juste avant ça, combien de personnes
dans la troupe, alors, soit c'est Zamparini tout seul qui joue.
Oui.
Soit sinon, nous sommes trois quand nous jouons, par exemple, le spectacle de café-théâtre sur lequel on dira peut-être deux mots tout à l'heure, donc le pied de la lettre. Là, on est trois. Quand on joue Courteline, on est quatre. Et puis ensuite, suivant les spectacles que je monte, on sera peut-être un peu plus nombreux. Voilà.
Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge?
Non, la moyenne d'âge, hélas, elle est quand même assez élevée. On est dans les 60 ans à peu près. Je regrette, je n'ai pas de jeunes. Ça m'ennuie beaucoup. Donc des jeunes premiers, des jeunes premières. Et non, j'ai que des personnes qui sont tous à la retraite, mais qui tiennent quand même fort bien la route. Et puis si dans la troupe, j'ai Bruno qui lui continue de travailler, qui est un excellent acteur. Voilà.
Alors, on va passer à un petit temps de lecture. Lequel voulez-vous lire en premier ? c'est passe-temps ?
Ah ben on se fait passe-temps à deux.
Alors,
comme
Alors passe-temps, c'est un texte qui vient de vous.
Oui, tout à fait. C'est un texte qui sera dit, comme ça on en dit tout de suite deux mots, qui sera dit donc à Champtercier lorsque nous allons jouer cette création donc le samedi 10 octobre.
Qui s'appelle Au pied de la lettre.
Le pied de la lettre.
Le pied de la lettre.
Le pied de la lettre. Voilà. Donc et ce passe-temps là sera joué par deux de mes actrices, Claudette et Brigitte. Mais là, on va se le faire tous les deux.
Exactement.
Ben alors, je vous donne un peu les didascalies au départ, hein, pour que les gens comprennent. Deux personnages, A et B. A est debout et il tient une passoire dans laquelle il n'y a rien. Ce qui ne l'empêche pas de passer régulièrement la main à l'intérieur, comme s'il passait de la farine. Parfois aussi, avec la même main, il attrape quelque chose d'invisible, à la façon d'un homme qui saisit une toile d'araignée. Il dépose délicatement le contenu de sa prise dans la passoire et recommence son occupation. Intrigué, B, que vous allez jouer, Odile, et qui était assis, se permet de l'interpeller.
Monsieur ?
Madame ?
Pardonnez mon indiscrétion, mais je vous observe depuis quelque temps. Pourriez-vous me dire ce que vous faites là ?
Vous voyez bien.
Je ne vois rien, et c'est précisément parce que...
D'ordinaire, que fait-on avec une passoire ?
On passe. On passe de la farine quand elle a des grumeaux, on passe de la soupe quand elle a des poissons, on passe les poissons quand ils ont des arêtes.
Eh bien, moi, je fais de même, je passe.
Mais vous passez quoi ?
Je passe le temps.
Ah oui ? Et vous en passez beaucoup ?
J'y passe un temps fou.
À quoi ?
À passer le temps. Si vous croyez que c'est un plaisir de passer le temps quand c'est le métier qui l'exige, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. C'est un travail ingrat qui exige une formation de haut niveau. J'ai d'ailleurs un diplôme supérieur d'expert compte-heure. La plupart de ceux qui ont des passe-temps les considèrent comme des loisirs. Ce sont des amateurs. Moi, je suis un rare passeur professionnel qui exerce à temps complet. Je ne fais que cela.
Qu'est-ce que vous venez d'attraper ?
Ah, ça, c'est une seconde d'inattention. Je l'ai saisie de justesse, elle allait causer un accident. Si vous saviez le nombre d'accidents qui se produisent chaque jour à cause d'une simple seconde d'inattention. Mais pour moi, ces instants-là sont les plus nuisibles de tous. Alors, pas de quartier, destruction immédiate. Hop, une seconde de moins. Regardez le travail, c'est-il pas de la belle ouvrage ?
Pardonnez mon étonnement, mais je ne vois rien.
Mais vous ne voyez pas quelque chose qui s'écoule par là, un peu comme du jus ?
Je ne vois rien, je vous jure.
Alors goûtez !
Pouah, c'est amer !
Et doucement, hein, je vous interdis de me tutoyer.
Je veux dire, sur la langue, ça pique.
Normal, c'est une aiguille.
Une aiguille ?
Oui, l'aiguille des secondes. Des secondes d'inattention. Ce sont des secondes, des aiguilles extrêmement dangereuses. D'ailleurs, je n'aime pas cette expression. L'aiguille des secondes. Aiguille des secondes. Pourquoi pas l'aiguille des premières ou l'aiguille des troisièmes ? Il y a tant et tant de secondes qui dansent dans l'espace, à contre-temps. Comme disait Einstein, l'histoire du futur ne date pas d'hier. Ah, c'est l'heure, la pause syndicale. Je m'assois. Ah, un peu de répit. Mon père disait, le répit, c'est le repos du temps une fois qu'il est repu. Hélas, le répit ne dure jamais très longtemps.
Votre père était poète ?
Oh, à 16 heures seulement.
À 16 heures ?
Oui, ou 16 ou 17, peu importe. Cependant, je dois vous faire une confidence, mon père était un très mauvais poète. Mais c'était un excellent horloger.
Il était horloger, votre papa ?
Oui, il était horloger tanneur. Il tannait tous les instants qu'il trouvait. Il leur faisait la peau. Oh, il y en avait qui n'étaient pas beaux à voir, hein, des instants inoubliables, des instants en phase terminale. Je le revois encore, il levait son outil de tanneur, un vieil appareil photo des années 30, et chlac, il les aplatissait sur une peau de chèvre.
Il tannait les instants avec un appareil photo ?
Eh oui, il en faisait des instants tannés. Aïe.
Qu'est-ce que vous venez d'attraper ?
Un cœur de femme, bafoué. 35, 40 ans, pas plus. Ah, celui-là, il va me donner du fil à retordre. Hein. Doucement, ma jolie, doucement, on se calme. Et merde, il vient de se casser en deux.
Ah, j'ai compris, c'est un cœur brisé.
Exact. Touchez. Eh, on sent bien les deux morceaux. Allez, touchez, ne faites pas la timide.
Incroyable. On sent comme une palpitation, toute ronde, là et là. Une autre palpitation ronde, lente, mélancolique. Non, on sent deux palpitations lentes, mélancoliques et toutes rondes.
C'est normal, c'est une femme qui vient de se faire plaquer par son compagnon. Alors, elle a les boules.
Et dans ce cas précis, votre passe-temps, à quoi vous sert-il ?
À faire oublier. Rien de tel que le temps pour dissoudre les chagrins dans le jus de l'oubli. Allez, ma grosse, sèche tes larmes, assez perdu de temps. Je vais te faire oublier les mauvais moments. Avec moi, tu vas passer un vilain quart d'heure.
Non, pitié, n'écrasez pas ce cœur. Une fois dans ma vie, je veux être utile. Laissez-moi le sauver. Viens, pauvre cœur, je veux te prouver que la vie peut être belle quand la flamme de l'espoir luit au-dessus de cette vallée de larmes. Ah, la salope! Elle m'a mordu, garce, peau de vache, crève! Mais ce cœur de femme, c'est la méchanceté incarnée, la cruauté à l'état brut. Je comprends pourquoi son mec l'a laissé tomber.
Eh oui, ils sont souvent comme ça, les cœurs brisés, venus au monde pour emmerder les autres. Même brisés, ils nous les cassent. Allez, à la passoire. Vous sentez?
Ça sent fort, en effet.
Ah, ça sent la rancune. Mais avec le temps, ça prendra le parfum de la nostalgie, avec un arrière-goût de reviens-y. Chut! Chut!
Qu'est-ce que c'est?
Chut, vous dis-je. Touchez délicatement. Je viens d'attraper un phénomène rare.
Oh, c'est doux, c'est tiède. Ça passe sur la main avec une volupté surnaturelle. On voudrait que ça ne s'arrête jamais.
Et pourtant, il faudra bien qu'il y passe, lui aussi. Inutile de l'écraser, il va passer de lui-même. Ça y est, c'est fait.
Qu'est-ce que c'était?
Un ange.
Un ange.
Un ange qui passe. Merci, Odile.
Merci, Dominique Zamparini. Dans cette émission Au jardin des mots, donc un texte passe-temps que vous avez écrit, que vous jouerez donc à Champtercier très prochainement, le 10 octobre.
Ah oui, oui de toute façon, il y aura aussi une petite surprise aussi à Champtercier. Et puis, tout à l'heure, peut-être que je vous en lirai un autre un petit peu plus tard. Ce qui m'aurait fait plaisir, Odile, c'est que vous lisiez un texte de Prévert que j'aime beaucoup.
Alors, je sais lequel vous voulez que je lise, puisque on en a parlé avant. « Quand tu dors » de Jacques Prévert. Toi, tu dors la nuit, moi j'ai de l'insomnie, je te vois dormir, ça me fait souffrir. Tes yeux fermés, ton grand corps allongé, c'est drôle, mais ça me fait pleurer. Et soudain, voilà que tu ris aux éclats en dormant. Où donc es-tu en ce moment? Où donc es-tu parti vraiment? Peut-être avec une autre femme, très loin, dans un autre pays, et qu'avec elle, c'est de moi que tu ris. Toi, tu dors la nuit, moi j'ai de l'insomnie, je te vois dormir, ça me fait souffrir. Lorsque tu dors, je ne sais pas si tu m'aimes. T'es tout près, mais si loin quand même. Je suis toute nue, serrée contre toi. Mais c'est comme si j'étais pas là. J'entends pourtant ton cœur qui bat. Je ne sais pas s'il bat pour moi. Je ne sais rien, je ne sais plus. Je voudrais qu'il ne batte plus ton cœur, si jamais un jour tu ne m'aimais plus. Toi, tu rêves la nuit. Moi, j'ai de l'insomnie. Je te vois rêver, ça me fait pleurer. Toutes les nuits, je pleure toute la nuit. Et toi, tu rêves et tu souris, mais cela ne peut plus durer. Une nuit, sûrement, je te tuerai. Tes rêves alors seront finis, et comme moi, je me tuerai aussi, finis aussi mon insomnie. Nos deux cadavres réunis dormiront ensemble dans notre grand lit. Toi, tu rêves la nuit, moi, j'ai de l'insomnie. Je te vois rêver, ça me fait pleurer. Voilà le jour, et soudain, tu t'éveilles, et c'est à moi que tu souris. Tu souris avec le soleil et je ne pense plus à la nuit. Tu dis des mots toujours pareils. As-tu passé une bonne nuit? Et je réponds comme la veille. Oui, mon chéri, j'ai bien dormi. Et j'ai rêvé de toi comme chaque nuit.
Merci. C'est vrai que j'ai une grande admiration pour Prévert parce que Prévert manie, comme vous l'avez remarqué, le vers libre, mais il le manie avec une très grande science des rimes. En particulier sur les « i », c'est très curieux, c'est un passionné des « i » et le « i », je trouve, dans la langue française, a quelque chose de toujours très, très joyeux. Hein. Je trouve en plus que Prévert a cette qualité d'être d'une très grande originalité. Il est capable de parler de choses très concrètes, hein, je dirais peut-être un texte tout à l'heure là-dessus, mais ensuite il est capable aussi de s'envoler par exemple dans La pêche à la baleine, où il part complètement en vrille, et à chaque fois on a l'impression que ce sont des petites histoires qu'il nous raconte. Alors si je vous dis ça, c'est parce que finalement le mot « conte », quelque part, ça me fait penser à Christiane.
Alors, on va en venir, justement, puisqu'on s'est rencontrés aux rencontres de la parole qui ont eu lieu très récemment, dont la dernière soirée était à la Robine-sur-Galab. Oui. Mais nous, on s'est vus pour le pique-nique du dimanche avec tous les conteurs. Et donc Christiane Belleuil, que vous connaissez bien.
Oui, tout à fait. Et je peux le dire parce que c'est une amie et je trouve qu'elle fait un travail absolument remarquable dans ce département. Bon, avant déjà où elle était ailleurs, elle avait bien sûr lancé cette idée et je trouve qu'elle a donné vraiment une très grande qualité culturelle à ce département en en faisant la promotion donc de ces soirées contes et puis aussi de ces rencontres tout à fait informelles, type celle de la Robine sur Galabre. Les conteurs que j'ai vus cet été étaient vraiment remarquables en plus, hein.
Vous êtes habitué à venir à ces manifestations chaque année ?
Non. Généralement, je suivais toujours un ou deux conteurs dans l'été parce que j'avais beaucoup de boulot. Et cette année, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me bloquer quelques jours pour aller les voir. C'est vrai qu'à la fin du mois d'août, c'est pendant le mois d'août.
Oui, c'est au mois d'août. Voilà. Ouais.
Et là, j'avais un petit créneau, donc j'en ai profité. Et vraiment, tous ceux que j'ai rencontrés étaient vraiment extraordinaires. Plus les deux musiciens qui les accompagnaient. Ça, c'est une idée de Christiane aussi, je crois.
Oui. C'était avec Reynald Fleury et... Soltani. Nasser Soltani, ouais. Voilà, c'était un vrai bonheur.
Et de puis surtout, fou furieux.
Et puis surtout de voir quel plaisir ils prennent.
Ah, complètement.
Et ils ont donné aussi au public, mais aussi aux conteurs qui n'étaient pas forcément habitués à être accompagnés en musique. Un bon moment, ces rencontres de la parole. Donc, on espère que ça va continuer.
Tout à fait.
Est-ce que vous nous chanteriez pas une chanson maintenant ?
Ah bah oui, tout à fait. Le temps que je prenne ma guitare.
Oui. Et vous allez nous chanter donc une chanson de Francis Blanche.
Oui, donc ça s'appelle Ça ne tourne pas rond.
Ça ne tourne pas rond de Francis Blanche et on viendra après à expliquer ce qui vous plaît en Francis Blanche.
D'accord.
On vient de renvoyer la bonne, paraît qu'elle volait des sous à maman. Elle a pleuré comme une folle, crié que c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il l'avait vue. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça fait plaisir. Je sais pas ce que j'aime bien mentir. Ça ne tourne pas rond dans ma petite tête, les fois. J'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. J'aime bien casser deux, trois vitres et faire croire après que c'est les courants d'air. Avec une fourchette à huîtres, j'ai crevé un œil au chat de grand-mère. Quand je suis tout seul, je dis des gros mots et je vide des bouteilles de Porto. Je regarde dans les livres défendus les photos des belles dames toutes nues. Ça ne tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois, j'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Pareil qu'avec de la poigne, on peut me corriger, a dit le docteur. Faudrait que j'aille à la campagne, moi ça me ferait du bien, j'aime tellement les fleurs. Pour leur arracher les pétales, je sais pas ce que j'aime bien faire mal. Depuis que mon petit frère s'est noyé, et qu'on a dit que c'est moi qui l'a poussé. Ça ne tourne pas rond dans ma petite tête, des fois. J'ai des drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises.
Dominique Zamparini, merci pour cette chanson de Francis Blanche, Ça ne tourne pas rond. Et Francis Blanche, donc quelqu'un que vous appréciez particulièrement, puisque vous allez lui dédier un spectacle.
Oui, ça c'est dans les projets 2016, donc... il y a longtemps, on avait fait un spectacle Francis Blanche Pierre Dac avec d'autres personnes de la compagnie. Et puis là, j'ai eu envie de reprendre seul, cette fois-ci, une grosse partie du répertoire Francis Blanche. Mais comme vous l'avez sans doute remarqué, je ne suis quand même pas un très grand guitariste. Donc cette fois-ci, je me ferai accompagner par un pianiste. Voilà, donc, et je serai libéré complètement de la partie musicale. Je me contenterai cette fois-ci de chanter et de dire bien sûr des textes. Car Francis Blanche, comme la plupart des humoristes, était quelqu'un d'extrêmement sensible et il a écrit des poèmes extrêmement profonds, hein, presque à vous faire pleurer, quoi. Alors bien sûr, parfois avec beaucoup d'humour, et puis parfois, bon, il avait vraiment des choses importantes à dire.
On peut retrouver ces textes facilement ?
Oui, disons que alors, la plupart des chansons, maintenant, bon, soit on les retrouve comme tout le monde sur YouTube, ouais. et puis les paroles, les lyrics, comme on dit, on les retrouve sur d'autres sites. Sinon, les textes un peu plus intimistes, alors il y a un livre de poèmes qui s'appelle « Mon oursin et moi ». C'est donc de Francis Blanche, je me le suis procuré il n'y a pas longtemps, et là, il y a la plupart des poèmes. On sait peut-être d'ailleurs... Je veux dire, un tout petit
nous
poème.
En dira
à... Oui, un tout petit. Alors, voyez, ça, c'est le côté surprenant de Francis Blanche. Près de vous, Virginie, quand je vous ai connue, vous aviez des bras blancs et cet air ingénu qui m'impressionnait tant. Un côté provincial qui vous allait si bien, des blue jeans un peu sales, encore plus que les miens. Près de vous, Virginie, je me sentais à l'aise. Alors, vous m'avez dit... Je vous trouve très doux. Pourtant, il y a peu de garçons qui me plaisent. Moi, depuis cet instant, je pouvais croire à tout. Je vous ai emmené à l'auberge du bois, et vers minuit passé, on est rentré chez moi. Nous avons écouté mes disques de Mozart, je vous ai raconté ma vie et mes espoirs. Près de vous, Virginie, je me sentais à l'aise. Alors vous m'avez dit, vos beaux yeux dans les miens. Maintenant, assez causé. À quelle heure est-ce qu'on baise ? Moi, depuis cet instant, je ne crois plus à rien.
Voilà. Merci Dominique Zamparini.
Quelques chutes comme ça de Francis Blanche.
Alors, est-ce qu'on passe à un autre texte, mais qui n'est pas du tout de Francis Blanche ?
Oui. Voilà, d'accord.
Tonton, absolument. Qui fait partie de votre spectacle, dernier spectacle, Le Pied de la Lettre.
Le Pied de la Lettre, qui sera créé donc à Champtercier.
Pour la première fois, ce sera
le samedi
10 octobre, à 20h30, c'est ça
20h30, ou
21h,
je
ne
sais
ou
plus.
Ou 21h, bon, on le reprécisera.
Oui. Donc, et c'est organisé par une association donc, de Champtercier. Hein. Voilà, donc c'est un monologue qui s'appelle Tonton, que j'ai travaillé aussi dans le cadre de l'atelier justement en écriture, mais que j'ai ensuite beaucoup modifié.
On vous écoute.
Tonton. Tonton, ton. Tonton, ton tout. Tonton, ton le gazon. Il ton le caniche. Il ton les moines. Il ton sûr. Il ton tous les boucs. Il ton bouc tout. Il ton les rentiers. Il tontine. Il ton les morts. Il outre ton. Il ton les musiciens malchanceux. Il ton bola. Tonton ton les moutons. Les deux moutons de tante Albertine. Tante Albertine a deux moutons. L'un s'appelle Ten, l'autre s'appelle Ton. Elle les aime à la passion, surtout tondu. Elle les confie à tonton qui s'exécute tout aussitôt. Tonton lui dit « Je ton ton Ten, puis je ton tonton ». Hélas, récemment, il est arrivé un grand malheur. Ma tante devait s'absenter pour quelques jours. Elle avait confié ses deux moutons à son petit-neveu, qui est capitaine au long cours et qui vit une relation incestueuse avec un reptile, un énorme python de 7 mètres de long. Les deux pauvres moutons étaient à peine chez le capitaine qu'il a décidé de les trucider. Il en a fait un grand méchoui. Il a bouffé un des moutons. Il a donné l'autre à son python. Et sur leur tombe, il a fait graver cette épitaphe. « Ton a fini dans le piten ?» Ten a fini dans le piton. Apprenant ce drame atroce, tante Albertine a voulu mettre fin à ses jours. Elle a avalé une boîte entière de barbiturique avec les cachets et la boîte en carton. Elle a failli s'étouffer, mais tonton est arrivé à temps et d'une détente inattendue, paf, il lui a envoyé une grande tarte sur le pif. Elle s'est étalée sur le pouf. Elle a tout rejeté, comprimé et papier mâché. Depuis, elle picole. Mais ceci est une autre histoire. Revenons à nos moutons. Tonton, ton. Tonton, ton tout, je vous dis. Et après chaque tonte, il se poile. Il se poile à frire, se poile à charbon, se poile aux oreilles, se poile au menton, se poile à mazout. En effet, tonton est très frileux. Il ne supporte pas le froid. En fait, il est en froid avec le froid depuis qu'un jour, il a eu chaud. Coincé dans un congélateur. Le congélateur d'un abattoir. Le congélateur d'un abattoir à moutons. Mais ceci est une autre histoire. Tonton, ton. Il tonte en toute saison. La seule bête qu'il ne tond pas, c'est le t. Ah, c'est pas facile à dire. Je bute à chaque fois sur ce mot. C'est le t.
tatou. Le tatou, oui.
Faut pas charrier quand même, le tatou c'est comme la tortue, c'est couvert d'une carapace inattaquable. L'ancêtre du tatou est le célèbre priodonte, dont la robuste constitution était redoutée des monstres préhistoriques qui se cassaient les dents dessus. Ces prédateurs, dont la lâcheté était proverbiale, préféraient prédater les inoffensifs dinosaures qui broutaient dans les vastes prairies herbicoles de Jurassic Park.
Mais ceci est une autre histoire. Revenons à nos moutons. Où en étais-je? Où en était-on? On en était au fait indiscutable que tonton tontou excepté le tatou.
Le tatou et les tatoués, oui. Et, c'est-à-dire les adeptes du tatouage. Il faut savoir que certains tatoués adorent être tondus.
Oui, la tonte les tente.
Mais ma tante, ça l'énerve. Faut dire que tonton Victor est un tondeur atypique, qui ne tond que les femmes tatouées.
Les mâles portant tatouage, il ne veut pas en entendre parler. Il réserve l'exclusivité de ses prestations tondeuses à la gente féminine.
Tante Albertine est restée très tatillonne sur les règles de la fidélité.
Elle a raison de s'inquiéter des goûts répétés de tonton pour les femmes tatouées.
Souvent fois, me dit ma tante, ton tonton est un satané saute-chatte.
Oui, saute-chatte, ça date de l'Antiquité. Aujourd'hui, on dirait plutôt chaud lapin.
Mais moi, je ne supporte pas les lapins. Ce sont des bêtes totalement idiotes. Par contre, je trouve que le terme saute-chatte a quelque chose d'authentiquement érotique qui remonte au temps où les femmes hottentotes se mirent à ruer dans les brancards car elles en avaient plus que marre de recevoir matin, midi et soir les coups de boutoir de leurs maris hottentots qui leur tarattaient l'arrière-train.
Mais c'est vrai, quoi, on n'est pas des bêtes.
Mais ceci est une autre histoire. Revenons à nos moutons. Rappelons pour ceux qui auraient manqué le début que tonton Victor ne tond que les femmes tatouées. Sitôt qu'une de ces dames lui demande un petit coup de tondeuse, il accepte sans hésiter. Mais dans sa tête, il a sa petite idée. Il tire discrètement les stores de sa vitrine. Il commence à tondre dans l'obscurité. Comment fait-il pour voir dans le noir? Ne manqueront pas de se demander ceux qui tentent de comprendre quelque chose à cette histoire. C'est évident, c'est clair, il s'éclaire à la lubricité. Et la lubricité, c'est beaucoup moins cher que l'électricité et c'est beaucoup plus efficace qu'une pile Vonder qui ne dit mot consent et toc. Voilà tonton tout excité qui tâte le terrain de sa cliente. Et quand il a acquis la certitude que sa victime ne portera pas plainte, il ne contrôle plus ses mains. Ses doigts se détendent. Le voilà qui se hâte d'entreprendre la pauvrette innocente. Il tâte tant qu'il peut. Il tâte, il est heureux.
Il tâte, c'est honteux. Certaines de ces dames tatouées ne sont pas contentes.
Car ce genre de turpitude tâtonnante pourrait les compromettre
alors qu'elles n'ont rien promis à tonton.
Outre qu'elles n'apprécient pas du tout, mais alors pas du tout, d'être pelotées contre leur volonté, ce qu'elles trouvent absolument abject, c'est d'avoir, en plus, à payer la note de la tonte à la sortie. Car quelle que soit l'issue de la séance, tonton présente la facture.
C'est dégoûtant. Ça manque de tact. Et c'est justement ce manque de tact-là qu'elle colporte dans cette cité-ci.
D'où il s'ensuit que tonton jouit.
Oui, il jouit d'une réputation détestable qui porte atteinte à l'honorabilité de ma tante.
Quand très tard le soir, tonton rentre at home, sa femme lui demande, titubante, car comme je l'ai dit, depuis la mort de Taine et Ton, elle tétouille tous les fonds de bouteille.
T'es tondu, tatoué, hein, tu m'as exténué.
Oui, répond tonton, avant de lui balancer une grande taloche sur le pif. Pour lui apprendre à être complètement paf sur le pouf.
Oui, j'ai tondu comme une bête, j'ai tâté plus de 3 mètres de peau dans mon atelier. Et il y a des peaux, ma petite Albertine, crois-moi, il y a des peaux, mais qui ne demandent qu'à se laisser tripoter. Et moi, je suis d'une nature à me laisser convaincre.
Il parle comme ça, mon tonton, à ma tata. Comme dit ma mère, il est inique.
Tonton, tontard dans la nuit. Et quand il dort, tonton, ton encore.
Dominique Zamparini, merci pour ce texte.
Voilà, c'est un des textes qui fait partie donc du spectacle. Pour ça, ça s'appelle Le pied de la lettre. D'ailleurs, l'affiche le montre bien.
Oui, il y a très belle affiche, on peut le dire.
Qui a été conçue par mon fils, Benoît Zamparini, qui travaille avec nous régulièrement. Chaque fois que je peux lui trouver du boulot, je le fais volontiers. Parce que
il est aussi intéressé par le théâtre ?
Non, lui, pas du tout. Par contre, il est graphiste.
Ah oui.
Voilà, et ben, il essaie de s'en sortir, comme beaucoup de graphistes. Il est sur Marseille, et c'est pas non plus évident pour lui.
Eh oui. Donc, le pied de la lettre, on va trouver toutes ces merveilles. Donc, samedi 10 octobre à Champtercier.
Oui. Il y a un site, je ne sais pas si
oui, on n'a pas parlé du site. Oui, il faut le.
Alors, nous avons un site. Alors, j'essaie de bien vous le donner. www.compagnie-rire.fr. D'accord ? Parce qu'il y a deux autres sites avant, mais qui sont complètement obsolètes. Hein. Voilà. Peut-être qu'on peut se mettre un petit peu de musique.
La fille du gangster a des yeux bleus comme son père, des cheveux blonds comme sa mère qu'on voit danser avec les autres gangsters. Mais la petite a quelque chose dans le sang qui lui vient de la tante Antoinette et qui désespère ses parents. Elle est honnête et y a rien à faire contre ça. Les corrections ne la corrigent pas. Le sentiment, elle s'en fiche bien. Le raisonnement, ça ne sert à rien. Malgré les gifles de papa, chez le boucher, elle ne resquille pas. Et elle ne paye en faux billets que lorsqu'elle prend du faux filet. La fille du gangster a des yeux bleus comme son père, des cheveux blonds comme sa mère. Sa mère qui se revoit quand elle volait aux étalages. Mais la petite a quelque chose dans le sang qui lui vient de la tante Antoinette et qui désespère ses parents. Oh, elle est honnête. L'autre jour, son père avait projeté de cambrioler le bijoutier. Il avait tout fait, tout prévu. Oui, mais la petite l'a entendu. Et ne voulant pas qu'un brave marchand, qui a toujours vécu honnêtement, soit la victime des malandrins, eh ben, elle a mis le feu au magasin. La fille du gangster, yeux bleus, son père, cheveux longs comme sa mère. Sa misérable mère qu'on entend ronchonner. On ne fera jamais rien de cet enfant, je ne sais pas ce qu'elle a dans la tête, mais c'est vraiment désespérant. Elle est honnête. Elle a trouvé hier en se promenant un sac avec 800 000 francs. Vite, elle a couru le porter au commissaire de son quartier. Comme elle était dans la maison, elle a profité de l'occasion et lui a dit ingénument tout ce qu'elle savait sur ses parents. La fille du gangster a raconté au commissaire tous les exploits de son papa et de sa mère. Sa mère enfin calmée, car depuis 8 jours, elle est coffrée. Mais elle a compris les raisons de l'honnêteté de sa fillette qui lui vaut 25 ans de prison. Elle était bête.
Dominique Zamparini, il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce que vous souhaitez
peut-être justement
vous faire partager
moment, un petit moment un petit peu plus sérieux. On va revenir sur Prévert avec un texte qui finalement est assez parlant et qui peut-être peut évoquer certaines situations actuelles. Ça s'appelle « La grâce matinée ». Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé, 0,70 francs, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur, cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
Elle est terrible aussi, la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure. 3 jours, 3 nuits, sans manger. Et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégées par la crainte. Que de barricades pour 6 malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud, l'homme titube. Et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Un brouillard de mots. Sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé, 0,70 francs, 2 tartines beurrées, et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
Un texte de Jacques Prévert.
De Jacques Prévert, tout à fait. Ça s'appelle « La grâce matinée ». Prévert, comme je vous ai dit, était surprenant pour cela, parce qu'il était capable de partir dans des histoires merveilleuses, des contes en particulier, des contes poétiques, mais il avait aussi une très grande proximité avec le monde des pauvres, le monde des humbles. Il faut savoir qu'il a fait partie du groupe Octobre, donc dans les années 36, et qu'il a écrit plusieurs pièces de théâtre qui étaient extrêmement engagées, toujours très très violentes. Hein. Il détestait les curés en particulier, bien sûr les capitalistes. Il a fait un très beau texte sur Citroën. Il avait un engagement très fort à ce moment-là. Et puis après. À la fin de la guerre, donc après 45, quand il a commencé à être un peu plus célèbre avec Parole, il s'est calmé un petit peu, mais il avait toujours cette haine du bourgeois, du riche, et surtout de la religion. Par contre, il était vraiment anti-religieux au possible. Il y a plusieurs bouquins où il tape sur la religion sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Est-ce que c'est votre cas ? Vous vous retrouvez dans Jacques Prévert ?
Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, il y a quand même un monde au niveau écriture entre Jacques Prévert et Zamparini. Mais cette révolte intérieure, c'est une révolte de poète, hein, parce que bon, il a jamais été plus engagé que cela. Et puis, quand il était trop engagé, en particulier avec les communistes, quand il s'est rendu compte de la supercherie de Staline, bon, bah, il a changé complètement. Donc, il n'hésitait pas donc à dire, bon, voilà, vous m'emmerdez, puis je vais voir ailleurs, quoi.
Qu'est-ce qui motive, vous, votre écriture ?
Tous les matins, parce que bon, je suis un insomniaque, donc je me réveille 2 fois, 3 fois par nuit, et tous les matins, je m'astreins à écrire au moins
On va dire pendant une heure. Voilà. Ça peut être nul, archi nul, c'est pas grave. J'écris. Donc, parfois, il y a des choses qui me plaisent. Parfois, je me dis, mais c'est vraiment.
Qu'est-ce qui déclenche ça? Il y a un mot? Il y a une révolte?
Voilà, soit je me laisse partir sur un mot, soit je fais ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Ça, c'est très intéressant, hein, parce que bon, voilà, il n'y a pas de censure, et ça, c'est très bien. Soit, par contre, je me donne une contrainte, voilà, ou en me réveillant, parce que généralement, c'est juste au réveil. Qui me vient un petit jeu de mots un petit peu surprenant ou une idée surprenante, et là je développe ça tout de suite, quoi, voilà. Donc, et puis au bout d'une heure je suis à plat et je mets ça de côté dans les cartons et puis je le ressors un peu plus tard.
D'accord, donc c'est vraiment une heure tous les matins.
Oui, j'essaie de m'astreindre à ça. Alors je sais que les écrivains, les romanciers, j'écoutais récemment là, une interview de Christine Angot, qui est une passionnée de l'écriture, et on voit qu'elle souffre énormément quand elle écrit, et elle racontait qu'elle, bon c'est pareil, bon, elle c'est pas une heure, c'est des heures et des heures quand elle écrit, mais elle a une véritable passion, et bon c'est vrai, elle c'est les romans, puis elle a des choses... des drames personnels importants à raconter. Et elle s'est fait une discipline encore beaucoup plus contraignante que la mienne, parce qu'elle, elle cherche ensuite à épurer jusqu'à ce qu'elle parvienne vraiment à la phrase qui lui paraît la plus réaliste possible. On parlait tout à l'heure de biffer sans arrêt. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cela, quoi.
Et vous écrivez avec un stylo ou sur l'ordinateur directement?
Non, je suis nul sur l'ordinateur.
Ah oui.
Donc moi, j'en suis resté au support papier. Et j'aime beaucoup le support papier parce que je trouve d'abord ça se conserve. Et puis, c'est jamais le même papier. Parfois, ça peut être sur une affiche. Parfois, ça peut être sur une feuille, etc. Et je conserve tout ça précieusement. Je garde pratiquement tous mes écrits. Voilà. Mes œuvres complètes iront à mes enfants s'ils y trouvent un intérêt quelconque.
Avant de se quitter, puisque c'est l'heure, dans deux petites minutes, on rappelle donc le spectacle Le Pied de la Lettre, c'est du 100% Dominique Zamparini.
Tout à fait.
Et sketch humoristique.
Ah oui, tout à fait. Ce sont que des sketchs, donc soit qui sont dits seuls, soit qui sont joués à deux, voire à trois. À la fin, en particulier, ça je peux en dire quand même un tout petit mot, il y a une très belle parodie de Jeanne d'Arc. Et ça, je l'écris pour mes amis du Front National.
D'accord, très bien. Donc, rendez-vous samedi 10 octobre à la salle des fêtes de Champtercier, c'est à 21h, pour Le Pied de la Lettre avec Dominique Zamparini. Et puis, pour ceux qui manqueraient ou qui habiteraient plus loin, il y a samedi 17 octobre à la 21h également à la salle des fêtes de la Brianne.
Tout à fait.
Dimanche 25 octobre à la salle des fêtes de Saint-Jurs à 15h cette fois.
Tout à fait, absolument.
On va se quitter?
Eh bien, au revoir, Rodi. Et puis, on peut dire encore un joli coucou amical à Christiane.
À Christiane Belœil, que les auditeurs retrouveront, bien sûr, le dernier jeudi du mois prochain, de 17h à 18h. Merci, au revoir.
Au revoir.